Bello. L'heure philo jusqu'à 21h, en espérant qu'Henri Marc Mutel, qui réalise l'émission, tiendra le coup. Chantal Le Montagnier l'y aidera. S'il n'y arrive pas, Djoubaka a choisi les disques. Antoine Tebou, lui, est à la console et nous allons nous intéresser ce soir à Nietzsche.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Et c'est grâce à vous qu'on va le faire, Barbara Sigler. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez un livre, Nietzsche et la vie, une nouvelle histoire de la philosophie, dans lequel vous montrez comment la philosophie de Nietzsche marque un tournant et comment ses idées qu'il a contribué à faire émerger étaient plus que nécessaires. Alors, dites-nous ce qui a pu, dans les grandes lignes, ce qui a pu vous amener à une telle affirmation.
Oui, alors je pense effectivement qu'on peut voir dans la philosophie de Nietzsche un tournant. Alors j'irai peut-être pas jusqu'à penser comme lui à la fin de sa vie qu'il y a avant Nietzsche et après Nietzsche, comme il y a eu avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais il est vrai qu'il est l'un de ceux, et je pense qu'il n'est pas le seul, à une même époque, de la fin du 19e siècle, il est l'un de ceux qui opère un tournant fondamental. Et à mes yeux, c'est un tournant qui n'a pas été suffisamment identifié en philosophie, dans l'histoire de la philosophie. On a valorisé le tournant de la phénoménologie, donc avec des très grands auteurs comme, je ne vais pas avoir le temps de développer là-dessus, mais pour vous donner deux auteurs vraiment fondamentaux, Husserl et Heidegger. Par exemple, il y a d'autres tournants qui ont été identifiés, ensuite la philosophie analytique. Mais en fait, il y a un tournant, donc la philosophie analytique, c'est un peu après, voilà, c'est au début du XXe siècle, voilà, dans les années 30, surtout 40, 50. Voilà, on a identifié des tournants fondamentaux de rupture avec la métaphysique classique.
Et quel est le tournant, justement,
avec Nietzsche, je crois que c'est d'avoir mis la question de la vie, du corps vivant, des sciences de la vie et de la santé, de tout ce qui relève de notre rapport à la vie et au corps, au-delà, évidemment, de la science, du point de vue de la psychologie, de la religion, etc., au cœur de sa pensée. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'est pas du tout le seul à l'avoir fait. C'est pour ça que je ne serais pas du tout encline à y voir l'équivalent d'un avant Nietzsche, après Nietzsche, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il n'est pas du tout tout seul. Ouais. Très souvent, quand vous lisez des livres sur Nietzsche, il est présenté comme une sorte d'astéroïde, comme une espèce de météorite fulgurante, je disais, comme quelqu'un de totalement esselé. Qui un génie, qui a tout changé. Pas du tout. En réalité, il vit dans un monde intellectuel que j'essaie de retracer. C'est pour ça que toute la première partie joue un peu le rôle d'un manuel. Elle a été écrite pour des gens qui n'ont pas fait de philosophie et qui veulent comprendre ce que c'est que l'histoire de la philosophie. Donc on traverse tout ça, Descartes, Kant, surtout la philosophie moderne, même si je parle un peu des anciens. Et puis, j'essaie de montrer ensuite qu'en fait, il est dans un bouillon de culture scientifique,
absolument philosophique,
passionnant, qui... commence vraiment à se poser à la fin du 19e siècle et qui va s'épanouir au 20e siècle, cette philosophie de la vie et du vivant dont on pourra reparler des grands noms.
Voilà. Mais par exemple, lui, quand il dit « mon savoir manquait totalement de réalité », je trouve ça assez chouette d'ailleurs de dire ça, il va, d'une façon assez courageuse d'ailleurs et frontale, s'intéresser à la biologie, à la médecine, il va lire des centaines de pages de traités absolument gigantesques. D'ailleurs, il faut noter que les Allemands sont là sont très en pointe quant à la physiologie. Il va se pencher sur la théorie de l'évolution avec la même minutie. C'est un travail gigantesque qu'il
a accompli. Oui, Nietzsche a accompli un travail colossal, très peu connu. Il y a eu des travaux érudits en Allemagne et en Italie là-dessus, mais assez peu connus, assez peu popularisés. Il perdait la vue très jeune. Il avait vraiment une maladie très handicapante. Il devait faire des choix cruciaux pour les livres qu'il lisait. Il lisait beaucoup, bien entendu, mais c'était à chaque fois un véritable choix.
Donc, c'est très émouvant.
Oui, il est clair qu'il ait fait le choix de lire des ouvrages que j'ai moi-même consultés et lus, pas in extenso, mais une bonne partie en allemand, bon, des ouvrages très ardus de théorie cellulaire qu'il a annoté. Hein, on a ses annotations aux archives Nietzsche. C'est vraiment saisissant. Et non seulement il a lu de grands traités, très difficiles, lisibles, mais quand même ardus de lecture. Ouais. Et puis aussi beaucoup de... Il lisait les grandes revues scientifiques, donc il lisait les derniers articles. Il était parfaitement au courant de tout ce qui se passait. Il est évident que si aujourd'hui il avait traversé notre époque, il aurait lu tout ce qui se passait sur l'épidémie de Covid-19.
La crise écologique, la crise sanitaire,
absolument.
Tout ça.
Il était, ça le passionnait. Il voulait même se reconvertir dans les sciences de la vie et de la santé.
Et alors, vous le disiez, Marois Sigler, il devient aveugle. Et puis, il n'y a pas que ça.
Il devient malvoyant.
Et il a tout un tas d'autres pathologies. Enfin, c'est un homme souffrant, véritablement.
Oui,
donc, quand il parle du corps, il en parle du...
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un malade chronique affecté de... Enfin, polypathologie chronique. Hein. Donc, il a beaucoup de problèmes divers et variés, notamment des problèmes digestifs très très difficiles.
Là aussi, il a beaucoup parlé de la digestion.
Exactement.
Non, mais c'est incroyable.
Ouais, tout à fait.
C'est incroyable.
Et le travail qu'il fait sur la digestion, qui est un travail philosophique, puisqu'il donne à la digestion, à la nutrition, à l'incorporation un statut philosophique majeur, est évidemment en résonance avec ce qu'il éprouve physiquement.
Et c'est un génial lecteur. C'est-à-dire, c'est vraiment un homme. Non, il est philologue, c'est un homme honnête, non ?
Alors tout à fait, il faut rappeler qu'il est philologue de formation, hein. Il est, on pourrait dire, oui, philologue, c'est l'école allemande, l'étude des textes anciens. Lui, il est spécialiste des Grecs, de la Grèce archaïque, Hésiode et Homère. Et puis, il est professeur à l'université de Bâle, il a un service extrêmement lourd, il doit faire des cours de grammaire grecque, il doit faire... Bon, il a beaucoup de travail, il est affecté de ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de burn-out, parce qu'il a trop de tâches pédagogiques, il n'arrive pas à faire son travail de pensée qu'il voudrait faire. Il essaie de devenir philosophe, mais il n'est pas reconnu par l'université comme tel, on considère qu'il n'est pas à sa place, il fait un premier livre, La naissance de la tragédie, qui est très mal reçu par le milieu académique. Bon, il n'est pas bien par rapport
Pourquoi
à tout ça.
Pourquoi c'est mal reçu?
Parce qu'il ne reste pas dans sa discipline, il ne reste pas dans les frontières étroites de son champ de spécialité. Il se permet de faire des rapprochements entre les Grecs et Wagner, des choses qui sont vraiment pas académiques. Et donc le texte fait scandale. Et très rapidement, il se sent un paria de l'université et il se met à errer d'hôtel en hôtel avec ses problèmes de santé. Il n'a pas beaucoup d'argent, donc il vit de manière très très modeste. Voilà. Mais effectivement, il restera philologue, pour répondre à votre question, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il aura un rapport au texte d'une immense méticulosité. C'est un des plus grands lecteurs que je connaisse. Donc il lit évidemment dans le texte, quand c'est possible, presque toujours, et avec cette attention au texte absolument incroyable. Donc j'essaie de restituer. Le premier chapitre, c'est Descartes. Le deuxième chapitre, c'est Kant. Donc on traverse quand même la critique de la raison pure.
Et autant d'écrans, de ce que vous appelez des écrans. On va y revenir tout à l'heure, mais je voudrais savoir si... Parce qu'il peut avoir la réputation d'être un auteur difficile à lire. Est-ce que c'est vrai? Il est certainement complexe. On dit aussi de lui que c'est le philosophe de l'ombre et de la lumière. Est-ce qu'on a raison de dire ça?
Ça, l'ombre et la lumière, je sais pas, mais en tout cas difficile à lire, oui, et en même temps facile. C'est très complexe, c'est très difficile. Et si vous lisez La critique de la raison pure, c'est clairement difficile. Donc... Voilà, vous pouvez faire l'expérience dans une librairie, vous ouvrez La critique de la raison pure à la page 254 et vous vous dites je ne comprends rien. Bon, donc ça c'est clairement très technique. Voilà, c'est la philosophie a une technicité pour certains des pas tous les philosophes, mais une partie des philosophes considèrent que leur travail implique obligatoirement la constitution d'un vocabulaire technique, très technique. Et donc, forcément, ça met de côté des gens. Mais le même Kant peut faire un opuscule sur...
Marrant, peut-être pas jusque-là,
mais en tout cas, qu'est-ce que les lumières de Kant c'est tous les lecteurs peuvent lire ça. Donc, ça, c'est sûr que Nietzsche, quand vous ouvrez Nietzsche n'importe où, au hasard, comme vous le faites avec Kant, ben vous comprenez. Enfin, ça peut être vous considérez que c'est de la poésie, c'est de la littérature, c'est de la conversation, c'est de l'essai, c'est du pamphlet. Ça s'adresse à tous. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile à comprendre en réalité. Parce que si on en reste à un premier niveau de lecture, on a l'impression qu'il dit une chose page 20 et puis le contraire page 40 et que c'est un type incohérent, qui est juste très énervé et qui Et contre tout le monde.
Et voilà. Qui tape à coup de marteau.
Et qui tape à coup de marteau, ce qui est un contresens, voilà. Parce que quand on fait un peu de philologie, justement, on découvre que le marteau dont parle Nietzsche, c'est le marteau du musicien, c'est-à-dire pas du tout le type qui arrive avec sa massue.
Pour c'est tout le cas, marteau c'est... qui façonne avec beaucoup de subtilité.
C'est le marteau qui permet d'entendre si une chose est vide ou si elle est pleine. C'est le marteau qui permet d'entendre comment ça sonne, qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'écoute un discours politique. Tout à l'heure, j'écoutais avec une certaine perplexité le message sur la troisième dose des plus de 40 ans, des de Janssen, etc.
Ça, c'était au téléphone sonne.
Le message, si vous voulez, des autorités sanitaires que France Inter se doit de passer.
Juste avant les infos.
Bon, si je sors mon marteau, je me demande comment ça sonne, cette affaire. Vous voyez, c'est cette manière d'entendre, d'accord, de décrypter, comme certains disent aujourd'hui, de décoder, comme certains disent aujourd'hui. Nietzsche n'aurait pas dit ça. C'est une analyse philologique et ça implique, du coup, de faire toute l'histoire de ce message, d'entendre les tonalités de rythme, l'affect qui passe dans ce message. Écoutez la voix de ce message de tout à l'heure, la voix, pratiquement, on dirait un robot. Vous voyez, il y a plein de choses à entendre. L'esthétique des choses, c'est très important. Ce message-là, délivré par la radio publique, ça, il a une forme. Et donc ça, pour Nietzsche, ça le passionne. Quelle inflexion, etc. Donc, c'est un très, très, très grand lecteur, oui.
Alors Stiegler, donc vous êtes notre invité ce soir pour parler de ce sujet passionnant qu'est Nietzsche et son œuvre, que sont Nietzsche et son œuvre. Billie Eilish sur France Inter, Billie Bossa Nova. Elle aime quand ça vient sans mise en garde, car attendre mais si ennuyant, dit-elle. Grand chose peut changer en 20 secondes. Dur dur de philosopher effectivement dans la précipitation. Nietzsche n'aurait pas aimé. Love when it comes without a warning. 'Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight.
Martin.
Vers 1838, sur Terre, pour échanger des messages rapidement entre deux pays, on utilisait déjà un code binaire. Un petit contacteur électrique, un fil conducteur, beaucoup d'adresses, et le tour était joué. Son inventeur, Samuel Morse, était américain. Dès 1851, un premier câble télégraphique international relie la France et l'Angleterre en traversant la Manche. Mais l'aventure, la vraie, sera celle de la traversée de l'Atlantique Nord. En 1858, un premier câble sous-marin sera posé. Toutefois, il tombera en panne après avoir permis la transmission d'un unique message de la reine d'Angleterre. Il faudra attendre 1866 pour que le service soit ouvert au trafic public, pour l'essentiel des hommes d'affaires.
Nietzsche est né en même temps que le télégraphe, Barbara Sigler, et c'est une image obsédante chez lui. Enfin, il a comme une, c'est comme une révélation presque qui lui parvient.
Alors, effectivement, il est né en même temps que le télégraphe, il s'est déployé en même temps que le télégraphe déployait ses effets sur la Terre. Et une image obsédante, ce serait un peu exagéré dans la mesure où on a peu de textes. On a quelques fragments, mais qui sont saisissants et qui sont méconnus. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment les mettre...
Parce qu'il y a beaucoup de textes posthumes aussi, hein,
oui,
sur lesquels vous allez travailler.
J'ai utilisé également beaucoup les fragments posthumes. Mmh. Et on a donc une série de fragments posthumes qui renvoient au télégraphe et plus généralement à la révolution industrielle,
Il y a le chemin de fer aussi.
Le chemin de fer, la machine à vapeur, ouais, etc., ouais. Tout ça. La presse de masse. Et cette série de fragments posthumes, donc quelques fragments, est absolument extraordinaire. Oui.
Mais qu'est-ce qu'il en dit? Il dit que quoi? Que le télégraphe, ça, enfin que l'accélération que ça induit, etc., ça empêche de penser presque?
Alors, il pose le problème en tout cas. Il dit qu'il y a une accélération de tous les rythmes.
Qui est dangereuse.
Qui est tout à fait dangereuse et en même temps qui produit une extraordinaire révélation. La révélation de ce qu'on pourrait presque appeler une vérité, le flux absolu. C'est-à-dire qu'au même moment, dans les sciences, on est en train de découvrir que quand on regarde un objet, en réalité, c'est ce qu'on appelle cet objet qu'on identifie comme une chaise, une table, est composé d'éléments qui en fait sont absolument mobiles.
Et puis ça fait aussi voler en éclats le télégraphe, la question du temps, la question de l'espace, c'est-à-dire que tout à coup il n'y a plus de barrières.
Oui, alors c'est à la fois une accélération de tous les rythmes vitaux et sociaux, qui d'habitude nous servent précisément à ralentir le flux absolu pour nous donner une espèce de stabilité plus ou moins fictive. Ça, c'est ce que font les vivants en général et en particulier les sociétés. Et puis, ça c'est sur le plan du temps. Et sur le plan de l'espace, on a des clôtures qui ont été élaborées par les vivants, qui se séparent, qui se protègent de l'extérieur. Tous les vivants font ça. Et les sociétés établissent des clôtures, des barrières. Alors ça ne veut pas du tout dire que c'est absolument hermétiquement fermé. Une frontière est toujours un lieu de passage.
Là, on voit bien avec la barrière des espèces, elle était largement...
Voilà, oui, mais là, en l'occurrence, de manière... La destruction des barrières d'espèces, précisément, pose des problèmes pathologiques qui sont justement l'augmentation des zoonoses, etc. Mais pour revenir à un cadre plus général, la vie suppose l'élaboration de stases et l'élaboration de clôtures.
Alors les stases, c'est pour c'est-à-dire que la stase, c'est quoi? C'est l'impossibilité qu'un liquide coule ou...
Exactement, c'est tout ce qui permet en fait de ralentir, de quasiment figé, alors jamais totalement, hein, puisque le flux est absolu, mais de ralentir. Et les rythmes, ça peut servir à ça, les rythmes lents précisément. Et l'accélération du rythme, c'est toujours quand même un ralentissement par rapport au flux absolu, un rythme rapide.
Le flux, c'est comme le fleuve d'Héraclite?
Exactement, ça renvoie en allemand, Nietzsche sait très bien ce qu'il fait, c'est un philologue qui connaît parfaitement la philosophie grecque, évidemment, et quand il dit flux, il renvoie évidemment à la fois, donc on traduit en français flux ou fleuve, ça veut dire exactement les deux, il a évidemment en tête Héraclite et il le salue,
comme le premier
grand philosophe tragique à ses yeux, et c'est le philosophe du flux. Et donc pour revenir à votre question sur la clôture, donc ces clôtures sont nécessaires, le corps par exemple vivant, il a une enveloppe, on sait le rôle de derme, épiderme, etc. Et en même temps, à cette époque du flux absolu, ce qui est liquéfié petit à petit, c'est à la fois toutes les stases et toutes les formes de clôture. On retrouve ces questions aujourd'hui autour de la digestion, le caractère trop perméable des parois intestinales, toutes ces questions-là, vous voyez. Donc c'est très important de rappeler tout ça parce qu'aujourd'hui le débat public est dominé par la guerre entre deux ennemis, les partisans du flux absolu. Tout doit toujours changer. Les particuliers en général, les mêmes, sont partisans, en apparence en tout cas, d'un grand monde entièrement ouvert. Donc l'hypermondialisation, etc. Bon, en réalité, si on fouille un peu, on se rend compte qu'ils sont pour une ouverture seulement pour certains et pas pour d'autres. Hein. Quand il s'agit des migrants, il s'agit de leur demander de rester chez eux, mais ou même de les pourchasser. Mais si vous voulez, vous avez ces grands amoureux du flux absolu. Et en face, vous avez les grands amoureux du repli, de la stabilité, de la conservation,
de la permanence.
Voilà, de la permanence, etc. Donc, un peu partout dans tous les pays dans le monde aujourd'hui, il y a une espèce de guerre entre les militants du flux et les militants de la stase, de la clôture. Mmh. Et c'est catastrophique, parce qu'en réalité, si on comprend bien ce qu'est la vie et ce qu'est la société, c'est évidemment toujours un nouage extrêmement subtil entre flux et stase, entre ouverture et clôture. Et Nietzsche, ça, l'a tout à fait pensé.
Emmanuel Salaskis, vous le connaissez, j'imagine, il a lui aussi pas mal travaillé sur Nietzsche.
Nietzsche n'oppose pas de manière dualiste la nature et l'histoire. Nietzsche est aussi un penseur évolutionniste, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas lu directement Darwin, mais a lu beaucoup de textes darwinistes et évolutionnistes de son temps, et par conséquent, il se représente la nature humaine, ou plus généralement la nature individuelle, comme quelque chose qui s'est stabilisé pour le moment. Donc les instincts sont eux aussi devenus, même les instincts sont devenus, dit Nietzsche, mais simplement, c'est pas à la même échelle de temps. C'est-à-dire que dans le contexte d'une existence individuelle, on peut bien sûr essayer de contracter de nouvelles habitudes, essayer de s'incorporer ces habitudes, mais on n'arrivera pas pour autant à remettre en question des instincts qui sont le produit d'une histoire beaucoup plus longue. Alors, la raison pour laquelle nature et histoire, c'est si poreux chez Nietzsche, c'est aussi qu'il admet le principe de l'hérédité lamarckienne, donc de l'hérédité des caractères acquis, comme la majorité des gens à l'époque, c'était l'hypothèse dominante en fait. Il y avait finalement peu de spécialistes des sciences du vivant qui la remettaient en question, même si ça commençait tout juste avec Galton et Weismann.
Si tout est flux, si tout est en devenir, est-ce que le chaos est à redouter? Parce que c'est quand même, il faut dans ce cas-là, il faut sacrément s'adapter. Ça veut dire que même par exemple la science est mouvante. Qu'on ne peut s'appuyer sur aucune théorie stable.
Oui, alors vous me posez deux questions très importantes. Le rapport de Nietzsche au chaos d'abord et celui de Nietzsche à la science ensuite. Le rapport de Nietzsche au chaos, il est extrêmement compliqué. Hein. Il y aurait un ouvrage entier à écrire là-dessus.
Ben, vous allez le faire. Très bientôt.
Le chaos, bien sûr, il est à redouter, mais en même temps, il faut arriver à l'aimer, hein, de même que le flux. Hein. C'est-à-dire que pour Nietzsche, l'enjeu, c'est d'arriver à aimer. Le flux ou le chaos qui nous déborde. Et pour lui, on ne peut l'aimer qu'en l'organisant. C'est-à-dire en faisant ce qu'on considère être l'inverse. Hein, ou en le stabilisant, ce flux, vous voyez. Donc, c'est un penseur de l'organisation, véritablement. C'est fondamental chez lui. J'ai travaillé là-dessus il y a bien longtemps. Hein, j'avais écrit un livre aux Presses universitaires de France qui est toujours en librairie d'ailleurs, ouais. Qui s'appelait Nietzsche et la critique de la chair, Dionysos, Ariane, le Christ, et j'avais montré que Dionysos, évidemment, ça tout le monde le sait, c'est...
Dionysos, c'est le no-limite, on pourrait dire aujourd'hui, non un peu.
En tout cas, c'est la transgression des limites, si on veut, mm-hmm. Et Nietzsche le rapproche du flux, du chaos, etc., et Ariane, la fiancée de Dionysos, c'est celle qui organise avec sa petite oreille et qui essaie, et chez Nietzsche c'est l'espèce humaine, hein, et qui essaie de, c'est l'animal humain plus exactement, et qui essaie d'organiser ce chaos pour arriver à l'aimer. Voilà. Donc c'est vraiment, donc on peut pas dire le chaos c'est mal, on peut pas dire non plus le chaos c'est formidable. C'est ce qu'il faut arriver à avaler, digérer, organiser, supporter et à aimer. Et la musique chez Nietzsche, a cette vertu d'arriver à nous faire aimer toutes les contradictions chaotiques du flux absolu par l'organisation. C'est là, dans la musique, c'est l'art par excellence pour lui, pour parvenir à cela. Et on l'aime tellement, une fois que c'est organisé par l'art musical, ce flux, que du même coup, on veut qu'il revienne toujours exactement à la note près. Alors même que ça nous fait souffrir. Il y a les mêmes choses avec le cinéma. Hein. Quand vous aimez vraiment le cinéma, des scènes abominables, en fait, vous avez envie de les revoir à l'image près, tout pareil. Alors que pourtant, c'est négatif, on dirait. C'est de l'ordre, ce sont des émotions négatives. On dirait aujourd'hui que faut pas que ça existe. Bah si, ça, tout ça, c'est ce que Nietzsche a découvert avec la tragédie, avec les Grecs. Donc ça, c'est pour ce qui concerne son rapport au chaos. Maintenant, vous m'interrogez sur son rapport
à
la science face au chaos.
À une science mouvante, forcément, puisqu'elle fait partie
voilà,
de la vie.
Voilà, donc on est à un moment où la science doit affronter la question du flux absolu, aussi bien les sciences physiques par rapport à la matière que les sciences de la vie par rapport au vivant, hein, puisqu'on découvre que tout évolue, y compris l'espèce humaine et la manière dont elle fonctionne, la manière dont elle connaît, la manière dont elle perçoit. Tout évolue, donc évidemment c'est un choc considérable qui est au fond porté par la révolution darwinienne, 1859, l'origine des espèces est vraiment la date à retenir. À partir de là, la question se pose, puisque tout est fluent, peut-être que les propositions scientifiques sur le flux sont elles-mêmes provisoires. Et c'est exactement ce que pense Nietzsche. Simplement, là où il y a un pas qu'il ne fait pas et que beaucoup font, c'est que ça ne veut pas dire que tout se vaut et tout revient au même et que chacun son opinion. En aucun cas. C'est pour ça que j'ai absolument voulu écrire la conclusion à ce livre qui s'appelle Nietzsche.
Oui, sur la prévérité. Mais on y reviendra parce qu'effectivement, on voit bien que c'est un point, le clou presque du livre.
Voilà, c'est fondamental.
Nietzsche, il tourne le dos finalement à tout ce qui est doctrinaire. Enfin, on peut dire ça? Ou je me trompe?
Oui, il a beaucoup de mal avec l'idée. Il aurait beaucoup de mal avec l'expression, par exemple, qui a prospéré depuis le début de l'épidémie en France, la doctrine sanitaire. Enfin, soit on a des sciences de la vie et de la santé qui ont une stratégie, une hypothèse à proposer plus ou moins robuste, soit on ne sait pas, soit on tâtonne, mais la doctrine de la foi peut-être, mais pas la doctrine de la science. C'est pas un ensemble de doctrines. Donc cette transformation progressive de la science en une série d'articles de foi, donc de doctrines, qu'en plus on n'a absolument pas le droit de discuter parce que sinon on est complotiste ou je ne sais quel péché capital dont on serait porteur, pour Nietzsche c'est absolument ça aurait été absolument terrifiant d'assister à cela. Oui, on peut dire qu'il est un des grands critiques de cette approche en fait du savoir, de la vérité qui relève en fait d'une attitude alors religieuse mais au sens, attention, très large du mot, un sens un peu flou et flasque dans lequel on peut mettre la superstition, tout ce que vous voulez.
Alors, on a bien compris, Barbara Singer, qu'il faut en quelque sorte filtrer ces flux, mais il n'empêche que plus l'accélération se fait sentir, plus finalement l'âme se doit d'être d'une force terrible. Et est-ce que, pour Nietzsche, est-ce qu'à un moment donné, la modernité ne conduit pas à un affaiblissement de la pensée et donc de cette capacité de digestion?
Oui, vous avez tout à fait raison.
Je vous ai lu.
Il y a effectivement une accélération. Accélération de quoi? Accélération des rythmes biologiques et sociaux.
Ouais.
Hein, des rythmes sociaux qui donc accélèrent les rythmes biologiques.
Déjà à son époque, alors qu'est-ce qu'il dirait
déjà
aujourd'hui?
Déjà à son époque, bien
mais
entendu.
Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui?
Vous rappelez Jules Verne, hein? Vous vous souvenez? Bon, c'est l'époque de Jules Verne. C'est on passe son temps à regarder sa montre, on est toujours en retard, on arrive à telle heure à la gare de Londres. Bon, on est déjà exactement. Je veux dire, il n'y a pas tellement de changements entre l'époque de Nietzsche et aujourd'hui. C'est à peu près la même ambiance généralisée d'accélération des rythmes sociaux totalement frénétiques. D'impact sur le vivant, donc sur, par exemple, la capacité de digérer, pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Ça, c'est l'accélération des rythmes donc sociobiologiques. Le flux, lui, il accélère pas. Le flux composé par tous les flux, il est absolu. Donc, ce sont les rythmes qui s'accélèrent. Ce n'est pas exactement la même chose que le flux. Maintenant, cette accélération, effectivement, elle produit des phénomènes pathologiques. Nietzsche en a parfaitement conscience. Elle produit notamment toute une série de maladies chroniques dont il est lui-même le témoin, ou voilà, la victime en quelque sorte. Mais elle empêche aussi la pensée, elle empêche la formation, elle empêche la culture, cette accélération. On peut être tenté du même coup de vous demander un grand ralentissement, de tout faire doucement.
Ce qui ne serait pas bien non plus.
Et bien sûr que non, parce qu'en fait, pour qu'il y ait de la musique, on va pas tout ralentir. La musique, c'est une composition de rythme. Il y a du staccato, il y a du lento. C'est pas ni allons de plus en plus vite, ni allons de plus en plus doucement. C'est savoir composer des rythmes. C'est supporter l'hétérochronie. ce qui était un thème aussi sur lequel j'avais beaucoup travaillé.
Alors, l'hétérochronie, vous traduisez ?
La diversité dans le temps. Quoi.
Dans le temps, c'est ça.
Le fait que tout ne soit pas homogène. Mm-hmm. Dans Il faut s'adapter, un ouvrage précédent, j'ai montré que le néolibéralisme avait tendance à vouloir accélérer tous les rythmes, tout le monde au même pas, hein, toujours plus vite, etc. Tout s'enfile derrière le même chef. Et j'ai montré que John Dewey, l'un des plus grands contradicteurs, l'un des premiers philosophes américains qui a vraiment essayé de déconstruire ce nouveau libéralisme autoritaire, de l'accélération, etc., lui disait que non, la démocratie, ça implique la polyphonie des rythmes, ça implique l'hétérochronie, la capacité à supporter la différence des rythmes entre nous. C'est pas facile, hein, de supporter la différence des rythmes entre nous.
C'est pas facile.
C'est extrêmement difficile. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu que Dewey figure dans ce livre, dans un dialogue avec Nietzsche que j'ai essayé d'imaginer, puisqu'ils ne se sont pas connus. Un dialogue tout à fait d'une opposition, hein, puisqu'ils sont à la fois partagent beaucoup de choses, mais en même temps, ils sont très opposés.
Mais vous parliez de démocratie, peut-être juste un mot, parce qu'évidemment, là, on dévie peut-être, mais c'est pas grave. Ils pensaient pas beaucoup de bien de la démocratie.
Alors, on dévie pas du tout, parce qu'en fait, cette question de la démocratie, elle est à l'arrière-plan de mon livre tout le temps. Pas dans la première partie, qui est sur Descartes, etc.
Mais ça aussi, ce serait bien qu'on y revienne, mais bon, on peut pas tout faire à la fois.
Non,
alors, allons-y sur la démocratie.
Mais sur la démocratie, oui, c'est à l'arrière-plan, parce que je pense que il faut essayer de comprendre pourquoi Nietzsche s'est effondré face à toutes ces questions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a quelque chose qui ne parvient pas à penser. Et il y aurait beaucoup à dire, mais moi, une des choses que j'ai identifiées, c'est le fait qu'il se soit enferré dans l'opposition entre la masse et les exceptions.
Là aussi, on l'a mal interprété sur l'homme d'exception. Enfin,
oui, mais enfin, face à tous ces problèmes, par exemple cette accélération, sa réponse va être, trouver des lieux isolés, comme des sortes de monastères laïques, hein, où on puisse certains esprits qui ont le courage se mettre ensemble, des esprits en quelque sorte exceptionnels, qui soient séparés de la masse. Et cette masse, cette massification. Pour lui, est un motif de déploration, mais au bout d'un moment, il dit il faut arriver à tout aimer, y compris notre époque, et après tout, si cette masse finance par son travail laborieux, et parce qu'elle n'a pas le courage d'affronter toutes ces questions, le travail des exceptions, après tout, pourquoi pas. Et donc, on le voit finalement reprendre à son compte le clivage d'une société entre une masse laborieuse et des exceptions qui pensent, qui éprouvent, qui sentent, qui font de la poésie, de la musique, etc., qui est quand même une sorte d'impasse, en fait, à mes yeux. Et cela, à mon avis, entre autres parce qu'ils considèrent que la démocratie, c'est forcément, et comme beaucoup de ses contemporains d'ailleurs, le règne de la masse, ce qui, à mon avis, est une erreur. Et c'est pour ça que j'ai organisé ce rendez-vous philosophique, en quelque sorte, entre John Dewey et Nietzsche, où j'ai essayé de montrer qu'ils avaient beaucoup à se dire de manière contradictoire. Et j'ai montré comment Nietzsche pouvait aussi pointer les insuffisances de Dewey sur certains plans.
Il serait content, Nietzsche, de ça ? Est-ce qu'il aurait aimé votre livre ?
Je sais pas. Je me suis rendu compte que par hasard, je lui avais offert pour son anniversaire, puisqu'il est sorti le jour de sa naissance, à quelques heures près. Je me suis posé la question, je sais pas.
Mais il y a beaucoup, parce que je vous demande ça aussi, parce que il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'affection, presque de tendresse pour lui. On sent quelque chose qui tient de la filiation, mais pas que. Enfin,
Oui, je l'aime beaucoup. De toute façon, moi, je peux pas travailler sur quelque chose que je n'aime pas.
J'imagine bien.
Ou si, quand je travaille sur quelque chose que je n'aime pas, comme par exemple le néolibéralisme, qui est quelque chose qui m'envahit, dont je suis imprégnée de partout, comme de pratiquement tout le monde, mais que je n'aime pas. Je veux bien le faire, mais à condition que j'ai quelque chose de positif à lui opposer, parce que sinon c'est insupportable. Donc oui, j'aime beaucoup Nietzsche, évidemment, sinon j'aurais pas travaillé tant d'années sur lui. Mais j'essaye de comprendre qu'est-ce que j'aime particulièrement, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui, à mon avis, est extrêmement précieux pour aujourd'hui, et qu'est-ce qui nous encombre dans sa pensée. Donc c'est un travail critique, et en même temps avec une amitié.
Oui, c'est ça, une amitié. Et je suis sûre que si vous avez connu, vous aurez bien aimé. Ses travaux portent sur la philosophie antique et elle a écrit d'ailleurs un livre sur Platon et Nietzsche. L'autre manière de philosopher, c'est Monique Dixot.
Le corps est artiste pour Nietzsche. Le corps est une foule de conscience, de pulsions en conflit avec et ces pulsions sont dans des équilibres instables, perpétuellement instables. Mais c'est le corps qui accommode le monde de telle façon que nous puissions y vivre. c'est notre corps qui est menteur, qui est initialement, originairement menteur, c'est-à-dire que son interprétation est une simplification, une falsification. C'est par notre corps que nous percevons des choses, des qualités, des régularités, etc. Mmh. Toutes choses qui sont mensongères. Autrement dit, le corps, c'est le corps qui d'abord est idéaliste. C'est-à-dire que c'est le corps qui, précisément, appauvrit le réel, parce que le réel, dans sa multiplicité de devenir et de devenir conflictuel, ce réel, nous ne pourrions pas y survivre.
Oui, alors on ne pourrait pas y survivre. C'est une belle image qu'elle a de dire que le corps est artiste. Et comment est-ce qu'on peut encore avoir un corps, Barbara Stiglia, à l'heure, à l'époque du télégraphe?
Avant de vous répondre, je voudrais quand même revenir sur ce que dit Monique Dixot ici. Je ne suis pas sûre d'être entièrement d'accord avec elle. Hein.
Ouais,
quand elle dit
non,
que le corps est une foule de pulsions, etc., ce n'est pas du tout ce que dit Nietzsche. Hein. Il compare bien plutôt le corps à une république, c'est-à-dire à une cité organisée. Il lit beaucoup Machiavel.
Mais l'organisation est humaine. Alors peut-être qu'au départ, le corps sauvage est un corps un peu plus flou.
Et précisément, non. Il y a une organisation. Pour un biologiste, le corps comme foule, ça ne veut rien dire.
Ouais.
Justement, le corps comme masse, ça n'a aucun sens. Mm-hmm. Le corps, c'est une organisation. Donc, ce n'est pas une foule. Par contre, c'est vrai que là où je suis d'accord avec elle, il y a de la contradiction, il y a de la tension, il y a des oppositions. Il y a dans les organes, il y a des tensions, il y a des alliances.
Et le corps est un organisme, on peut dire aussi.
Oui, bien sûr, c'est un organisme parce que c'est organisé. Et cela organise.
Ouais.
Alors effectivement, elle a raison, ça organise le perçu, mais pas sur le mode du mensonge, c'est pas vrai. Le corps n'est pas menteur, il produit des fictions, c'est pas la même chose. Il faut pas confondre la fiction et le mensonge. Quand vous regardez un film ou je ne sais quoi, vous ne regardez pas un mensonge, vous regardez une fiction. Donc, voilà, je ne dirais pas que le corps est idéaliste. Non, l'idéalisme métaphysique, c'est pas le corps qui a produit ça. C'est pas vrai. Donc, voilà, un point de désaccord, deux points de désaccord sur cette prise de parole. Mais disons, pour le télégraphe, oui, le télégraphe nous met à l'épreuve le corps, parce que il produit cette accélération et cette... On dirait aujourd'hui cette connexion de tous les vivants entre eux, enfin une partie d'entre eux, qui désorganise justement les capacités des rythmes à se réorganiser, etc. Donc on passe de l'hétérochronie qui est en quelque sorte normale, qui fait partie de la vie, à dyschronie en fait, tout simplement. C'est-à-dire des rythmes tellement désarticulés que ça en devient pathologique et cela produit des personnalités clivées qui d'un certain côté vont vous dire « je suis pour l'ouverture des frontières, l'accueil de tous les gens du monde entier, etc. » Et la même personne, dans son rapport aux étudiants ou à quelqu'un qui est pauvre devant sa porte, va vouloir le chasser ou va ne faire preuve d'aucune compréhension. Vous voyez, ça produit en fait de l'idéologie, finalement, au fond, mais pas des personnalités où les choses s'articulent à la fois par la pensée et par l'affect.
Rien que quelques notes, et vous savez de quoi il s'agit. Ecce Homo, Serge Gainsbourg sur France Inter.
Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, 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 Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo.
C'est moi, Gainsbourg. On me trouve au hasard. Des nightclubs, des bars. Américain, c'est bonheur.
Say
croire ce Gainsbourg. Il est cool. Faut croire que de tout il en a rien à cirer. Enfin, faut voir.
Barbara Stiegler, pourquoi est-ce qu'on dit que Nietzsche est le philosophe de l'oubli ?
Alors oui, on dit ça du fait de la deuxième considération inactuelle qui commence par le fait qui explique qu'on est obligé d'oublier pour vivre, etc. Bon, très bien. Mais j'ai beaucoup critiqué cette réduction de Nietzsche au caractère au philosophe de l'oubli parce que beaucoup de commentateurs très célèbres de Nietzsche ont à partir de là évacué la mémoire comme étant, d'après eux, une faculté du ressentiment, de réactive, passive. Donc Nietzsche aurait évacué tout ça. Pas du tout. En fait, la philosophie Nietzsche qui part de la vie et du corps vivant, de ce corps qui fabrique effectivement, comme le disait Monique Dixot, des fictions plutôt que des mensonges.
Vous n'avez pas envie qu'elle vous en veuille trop, hein ?
Comment ?
Vous n'avez pas envie qu'elle vous en veuille trop ?
Non, c'est pas ça. C'est que de ce point de vue-là, c'est vrai. Elle a raison dans le sens où il y a une simplification, mais cette simplification, elle passe aussi par toute un ensemble de mémorisation. Donc, on incorpore le flux en l'organisant, en le déformant, en le mettant en forme, on l'incorpore, et ça, c'est précisément l'incorporation, c'est un terme essentiel chez lui. C'est la mémoire, et ça commence avec la vie. Ce qui commence avec la vie, c'est la mémoire, précisément pour lui. Donc, dire que c'est le philosophe de l'oubli, c'est pas avoir dit grand-chose. Surtout que l'oubli, chez Nietzsche, c'est une modalité de la mémoire. Exactement comme chez Freud, hein, quand vous oubliez, en fait, vous refoulez. Bon, c'est de la mémoire, en fait. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Alors, du même coup, ce qui compte, c'est la différence des mémoires. Distinguer les mémoires entre elles. Pourquoi la mémoire peut prendre une forme pathologique ? Et chez l'humain, la mémoire, elle devient à la fois hypertrophique, ce qui rend l'homme capable, l'être humain capable d'aimer ce qui est très lointain. On est capable d'aimer les Grecs, par exemple, alors qu'ils sont morts depuis tant d'années, alors qu'ils sont plus là. Un animal ne peut pas faire ça, n'arrive pas à... Il arrive à aimer, mais il n'arrive pas à aimer aussi loin que ça. Donc il y a une hypertrophie par la mémoire qui est extraordinaire. Et puis, en même temps, cette hypertrophie, elle nous expose à une pathologie qui est le ressentiment. Qui est que, en fait, on a tant de choses, tant de contradictions en nous à incorporer et à supporter que ça peut devenir trop difficile. Et cet animal humain a tant à porter dans sa mémoire qu'il se met à détester le flux qu'il a commencé à incorporer. Et du même coup, il invente un autre monde à partir d'un certain moment dans son histoire. Et c'est là que naît l'idéalisme. Un monde idéal, le monde de la vérité, le ciel des idées, ce que vous voulez, la résurrection, autre chose que ce qui est là, que ce monde-là. Donc il y a un deuxième monde, et c'est dit comme ça hein, dans les Écritures, il y a un deuxième monde, ou un deuxième éon. Et chez les métaphysiciens, ça prend pas une forme comme ça à la fin des temps, mais c'est au-dessus de nous. En tout cas, ça montre bien que c'est une pathologie de la mémoire. Pour Nietzsche, c'est comme ça qu'il le comprend.
Thomas Himes, il est spécialiste des biotechnologies et de l'histoire des idées scientifiques, et il revient sur l'idée d'une frontière entre le vivant et le non-vivant, et ça c'est une nouvelle piste.
Pour moi, ma proposition, c'est que la vie n'est pas un périmètre, n'est pas une catégorie, c'est autre chose, qui est tout à fait accessible à l'expérimentation scientifique, hein, ce n'est rien de mystérieux, de surnaturel. Si on considère que la vie est plutôt quelque chose de l'ordre de la tension dynamique, cette tension dynamique, elle préexiste dans d'autres systèmes qu'on considérerait pas a priori comme vivants, comme des systèmes minéraux, par exemple. Et dans la manière qu'on a de concevoir le vivant aujourd'hui, toutes les formes de vie un peu bizarres, qui peuvent se rapprocher éventuellement même de formes minérales, sont des indices qui peuvent nous permettre de repenser le vivant autrement que sur des choses assez classiques, par exemple la notion d'ordre, la notion de complexité ou la notion d'organisation, mais plutôt dans le domaine de sa capacité à être créatif. Une créativité aveugle, évidemment, hein, pas de force mystérieuse qui plane au-dessus de tout ça, mais cette manière de résister en permanence à l'engloutissement par l'adaptation, par la dynamique d'adaptation, c'est quelque chose qui, à mon avis, caractérise l'originalité du vivant, mais qu'on peut aussi trouver dans des systèmes qui le préfigurent.
La dynamique d'adaptation, ça c'est du Nietzsche tout craché, non ?
Alors il y aurait beaucoup à dire, je suis ravie d'écouter Thomas Himes parce qu'en fait il m'a énormément aidé pour ce livre. On a travaillé ensemble parce qu'il avait lu ce livre, il a lu des biologistes que Nietzsche avait lu, etc. Donc je suis ravie de l'entendre et je le remercie beaucoup à nouveau pour ce livre. Alors là, lui, il parle de quelque chose que moi je connais beaucoup moins bien, mais qui est abordé via Bergson et Nietzsche, qui est le rapport à l'inorganique, hein, à la matière. En tout cas, ce qu'il dit, c'est il parle de la créativité, de la création, terme qui a priori est banni dans une science sérieuse, mais qui en réalité, quand on regarde ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui en biologie, n'est pas si facile que ça à bannir. Je le montre dans le livre, hein, quand on compare les thèses de Nietzsche et Gould. Gould, qui a été un lecteur génial de Nietzsche sur le tard, in extremis, avant sa disparition, il a très très bien compris les enjeux. On voit que la vie, c'est aussi une forme de liberté, de création, etc. Sans aucune forme de créationnisme, évidemment. Donc c'est très intéressant de voir que les pensées biologiques et physiques les plus intéressantes aujourd'hui redonne à la pensée de Nietzsche une puissance que, alors qu'au début, si on est dans des visions un peu manuelles, scolaires de la science, un peu bêtement génocentriques, par exemple, si on lit Nietzsche, on se dit c'est complètement obsolète. La réalité, c'est que c'est peut-être eux, dans ces manuels génocentriques, là, qui sont obsolètes par rapport à Nietzsche. Et c'est ça que Thomas Himes m'a, avec d'autres collègues de ces champs-là, c'est ça qui m'a encouragé à penser. Donc ça, c'est très important.
Oui. Alors, il y a le dernier chapitre de votre livre, donc Nietzsche et la vie, une nouvelle histoire de la philosophie, qui est aussi une conclusion, hein, qui est Nietzsche, philosophe de l'après-vérité. Alors ça demande quelques éclaircissements. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette après-vérité ?
Absolument. Juste avant, je voudrais juste dire que sur l'adaptation, Nietzsche a toujours pourfendu l'adaptation. Ouais. Et il voudrait bien en entendre parler si elle est complètement revue, hein, et autrement. Mais ça aussi, j'en parle beaucoup dans le livre. Ouais. Pour répondre à votre question, oui, j'ai voulu, à partir aussi de quelque chose que j'ai vécu d'extrêmement désagréable depuis un an et demi, d'être dans la position d'une universitaire qui prend la parole publiquement, qui interroge des paroles scientifiques soi-disant ininterrogeables.
Et on en a beaucoup entendu, des paroles scientifiques.
Voilà, on a entendu. Alors des paroles scientifiques, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la doctrine sanitaire. Hein, que tel type en blouse blanche ou telle fille en blouse blanche vienne raconter des choses approximatives. Pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est quand les politiques, le ministre, le porte-parole de je ne sais pas quoi, le directeur de l'agence sanitaire de je ne sais quoi, arrive et dit la vérité c'est ça. Voilà. Ça m'intéresse parce que ça n'a plus rien à voir. Là, c'est un pouvoir politique qui pense dire une vérité. Et je me suis retrouvée un peu sur la sellette. Hein, j'ai même eu à découvrir dans la presse des articles profondément désagréables qui expliquaient qu'en fait, j'étais une complotiste, confusionniste. C'était d'ailleurs, bon, si on peut continuer aussi. On peut aussi continuer, alors je laisse de côté ces articles qui n'ont aucun intérêt, mais c'est pas étonnant, puisque de toute façon, ces gens qui lisent Nietzsche, tout ça, ces gens du soupçon, à la fin, tout est dans tout, tout est relatif, on est perdu, c'est bien facile quand on est intellectuel de critiquer, on aimerait bien vous y voir, vous voyez ? Ce genre de choses extrêmement désagréables. Donc, j'ai voulu absolument écrire cette conclusion, pour montrer que ni Nietzsche, ni les gens comme moi qui le lisent, ne sont des fanatiques, des ennemis de la vérité, mais absolument pas. Simplement, donc on n'est pas, Nietzsche c'est pas le penseur de la post-vérité, absolument pas.
Non, mais peut-être qu'il y a c'est une certaine vérité.
Ce qui l'intéresse, c'est la réalité. C'est un penseur de la réalité. Ce qu'il pense, c'est qu'il faut être avec des techniques.
Donc les faits.
Les faits.
Les
faits sont toujours construits. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tout est équivalent. Ça veut dire que la réalité, elle est pleine d'hétérochronie, elle est pleine de diversité, etc. Elle nous déborde toujours. Et on a des méthodes une expérimentation qui s'accumule pour essayer de saisir quelque chose de cette réalité, qui évidemment est toujours beaucoup plus grande que nous.
Mais il n'y a jamais une cause, par exemple, aux choses,
voilà.
Il
n'y
a jamais une cause unique.
Par exemple, il n'y a jamais, dans une crise sanitaire, il n'y a jamais une cause, il n'y a jamais, tout n'est pas toujours de la faute, soit d'un pangolin, soit d'un virus avec un nom savant, soit de quelqu'un, non, c'est toujours en fait un faisceau de causes, c'est extrêmement complexe, et on doit faire une sorte d'enquête, on doit faire une généalogie pour comprendre, et il faut pour cela avoir un sens qui est fondamental chez Nietzsche, qui est celui de la loyauté, c'est-à-dire... Il a l'habitude, quand il lit Homer, il voit bien que Homer, bon, il en comprend juste une toute petite partie. Mais être le plus honnête possible par rapport à cela. Le problème, là, aujourd'hui, c'est ce qui triomphe, c'est un rapport totalement métaphysique, mais au sens vraiment le plus galvaudé de la vérité. C'est comme, si vous voulez, les gens parlent de médecine, etc., comme s'il y avait la vérité quelque part, là, qui trônait, que apercevraient les experts, les vrais, les sérieux. Alors, soit ce serait la vérité qu'on voit par la raison, la rationalité, par exemple, le calcul des épidémiologistes, vous voyez, serait une espèce de vérité, alors que pas du tout. Ce sont des outils d'aide à la décision, tout à fait peut-être intéressant, mais aussi tout à fait peut-être imparfait. Hein. Donc là, ça devient la vérité, du genre, R0, ça sera comme ça dans 3 mois, si les conditions sont bidules. Ça marche absolument pas comme ça, en réalité.
Mais ça veut dire que ça marche pas comme ça, parce que le savoir, de toute façon, il y a toujours un conflit au cœur du savoir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la science, c'est une arène dans laquelle tous les coups ne sont pas permis, et on fait pas n'importe quoi, mais c'est complexe. Et puis, de l'autre côté, donc soi-disant, soit cette vérité qui trônerait en haut, qu'on saisirait par la raison, soit la vérité, ce serait... une accumulation de données. J'avais cette donnée, j'ajoute cette donnée, on accumule des données, des faits, des datas, et puis ce serait ça le savoir. Pas du tout. C'est beaucoup plus difficile à saisir que ça. C'est effectivement un champ de tension entre des constructions et ce qui dépasse ces constructions et qui oblige ces constructions à se réaménager. C'est aussi la science, moi je suis convaincue de ça, une arène... qui n'est pas une jungle, qui est une arène qui ne marche que si elle marche selon des principes plutôt démocratiques. Donc en fait, il y a quelque chose de très proche entre l'esprit de la démocratie et l'esprit de la science de laboratoire. Et il faut donc qu'il y ait une conversation scientifique dans laquelle les gens se respectent, supportent d'être contredits, etc., etc. Et ça ressemble de ce fait beaucoup à la démocratie.
Donc tout il faut faire plutôt des hypothèses. On est plutôt dans le domaine des hypothèses, là.
Hypothèse, c'est peut-être pas le bon terme. C'est peut-être le bon terme. Je n'irai pas sur ce terrain-là tout de suite. Mais en tout cas, il y a de la construction et de la co-construction. C'est absolument tout l'inverse du relativisme. Parce que le relativisme consiste à dire chacun son point de vue, chacun pense ce qu'il veut. Voilà, c'est le grand flux atomique de moi, mon point de vue, c'est ça. Ah ouais, moi, mon point de vue, c'est ça. Puis à la fin, c'est la déliquescence des sociétés et c'est quasiment, et pourquoi pas, la guerre. Donc, non, c'est co-construire une stabilisation et une organisation de ce qu'on reçoit, un rapport donc à la réalité par des vérités qui elles-mêmes sont évidemment toujours imparfaites, des vérités au sens des énoncés de vérité.
Mais qui constituent l'après-vérité.
Et non, parce que l'après-vérité, c'est une traduction, quand je dis Nietzsche, philosophe de l'après-vérité, point d'interrogation, c'est une traduction de l'américain post-truth era. Qu'est-ce que c'est la post-truth era? C'est Donald Trump. Donc, pour aller vite. C'est chacun pense ce qu'il veut, et l'incarnation politique de ça, c'est Donald Trump. C'est le covido-scepticisme, disent certains, hein, c'est le climato-scepticisme. Bref, c'est vraiment un cauchemar. Donc, c'est... Plus rien n'a de valeur. Dès que quelqu'un dit quelque chose, bah forcément c'est faux, surtout si on l'entend à la radio, etc. Bon, donc, très bien. Et comme Nietzsche est un philosophe du soupçon, on a vite fait de se dire, Nietzsche et ceux qui lisent Nietzsche, c'est des trumpistes. C'est pour ça que j'ai fait cette conclusion, et j'ai mis un point d'interrogation pour montrer que Nietzsche, c'était absolument pas la post-vérité.
Et vous dites, vous racontez aussi que vous reprenez, Barbara Spengler, vos étudiants lorsqu'ils disent que Nietzsche dénonce ou condamne.
Oui,
c'est faux.
Et c'est vrai, et je me reprends moi-même parce que je le fais de temps en temps. Par moments, je dis, et là, Nietzsche dénonce... Ah, non, pardon. en fait, c'est difficile de ne pas le faire. Mais oui, c'est pas un dénonciateur. Il n'est pas du haut de sa chair à dénoncer, à donner des cours de morale. Non, il s'agit de penser de manière critique, d'affronter certaines choses, mais pas de dénoncer des fautifs. Ce n'est pas comme ça qu'il pense.
Merci beaucoup, Barbara Singer, de nous avoir éclairé sur ce Nietzsche et la vie, nouvelle histoire de la philosophie. C'est publié dans la collection Essai chez Folio. Merci beaucoup.